Soft Power, le club de la presse numérique, Frédéric Martel.
France Culture, le club de la presse numérique, on parle ce soir de l'étrange revirement de Facebook sur les données personnelles et nous sommes pour en débattre avec Gilles Fontaine de Challenge et Eliott Lepers, entrepreneur fondateur de l'ONG, le mouvement.ONG. Alors cette semaine, le fondateur et patron de Facebook, Mark Zuckerberg, a annoncé un revirement stratégique de son entreprise qui, rappelons-le, possède également la messagerie WhatsApp et le service Instagram. Mark Zuckerberg dit vouloir faire de Facebook un groupe focalisé sur le respect de la vie privée de ses utilisateurs. Alors qu'il reconnaît lui-même que son entreprise est très critiquée par la presse, Zuckerberg annonce vouloir rendre ses messageries instantanées cryptées de bout en bout et de réduire le temps pendant lequel les messages échangés sont conservés. Ce revirement annoncé de Facebook est décrypté ce soir dans Soft Power par Gilles Fontaine et Eliott Lepers. On commence par vous, Eliott Lepers.
Oui, effectivement, c'est un peu un changement de philosophie pour Facebook et de dire, il emploie ces mots, il dit que jusqu'à maintenant, Facebook était une place publique, et donc c'était de connecter des humains, c'était d'ouvrir, c'était de créer, de récolter le plus de données possible et puis de les mettre en réseau à disposition des annonceurs. Et il veut passer d'un modèle de place publique à un modèle de salon où on est dans des plus petits cercles avec des gens intimes, avec des gens qu'on connaît, avec des gens
finalement
à qui on fait confiance et avec des échanges effectivement qui sont sécurisés, soit parce qu'ils sont garder moins longtemps, comme c'est le cas avec beaucoup de succès sur Snapchat ou sur Instagram avec les fameuses stories, soit effectivement en encryptant les communications comme
de
c'est le cas
bout,
sur WhatsApp. Et donc effectivement l'intermédiaire qu'est WhatsApp ou Facebook ou l'entreprise en tout cas n'est pas capable de lire le contenu de ces messages. Et donc c'est effectivement une évolution, mais qui est une évolution surtout qui est déjà existante dans les usages. C'est tout simplement que les usages aujourd'hui de publication à tous les vents de nos informations sont en baisse, alors que les usages plus restreints sont en augmentation. Donc c'est simplement Facebook qui suit l'évolution naturelle des usages tels qu'ils les observent et donc pour adapter leurs services à leurs utilisateurs.
Gilles Fontaine, au fond, qu'est-ce que prépare Mark Zuckerberg? Est-ce qu'on peut lister un petit peu les évolutions annoncées, cryptage des informations, interaction privée, réduction de la durée de conservation des messages, etc.
Voilà, alors il y a... On peut imaginer une certaine dose d'hypocrisie hein, dans tout ce que Mark Zuckerberg peut être.
Pourquoi
j'imagine que tout n'est pas forcément senti. Moi, j'ai toujours cette image. Je me dis si Mark Zuckerberg était un Moldave de 50 ans avec une grosse moustache et une chaîne en or autour du cou avec des poils qui descendent, on lui confierait pas toutes nos données et on raconterait pas les mêmes choses.
Parce
et
qu'il
on
est pas, californien, voilà, qu'il vient d'Harvard.
Il faut croire que le hoodie change beaucoup.
Le hoodie,
c'est son sweat à capuche qui porte un petit peu moins là ces derniers temps, mais c'est vrai que il y a, comme le disait Eliott, c'est plus une évolution qu'une révolution. Ce que veut faire aussi Mark Zuckerberg, c'est essayer de sortir de l'impasse où il se trouve aujourd'hui, où il est à la fois combattu par beaucoup de régulateurs et de gouvernements dans le monde sur le problème effectivement de l'utilisation que son groupe fait des données privées de ses utilisateurs
et son modèle économique en fait, parce que son modèle économique
je reviendrai. Et puis il y a une autre chose, c'est aussi une tendance qui monte très fort aux États-Unis dans la campagne pour la candidature à l'élection présidentielle, avec une sortie assez violente d'une des candidates au primaire démocrate,
Elizabeth Warren,
la sénatrice
de Boston, de Massachusetts,
exactement, et qui elle a promis qu'elle mettrait ça sur l'agenda, en tout cas le démantèlement des GAFA et notamment de Facebook. Il faudrait que Facebook
se sépare
justement de ses messageries WhatsApp, Messenger et autres. Pour Mark Zuckerberg, c'est une façon d'essayer de se sortir effectivement vers le haut. Après, il y a effectivement la question du modèle économique de Facebook, qui repose à plus de 95% encore aujourd'hui sur la publicité. Et c'est un modèle qui, même Google, essaie d'en sortir. La publicité, c'est bien, mais on ne peut pas continuer avec des taux de croissance phénoménaux comme l'ont connu tous ces groupes, sans, à un moment donné, aussi avoir des bases plus solides sur la monétisation autre que la publicité. Et là-dessus, il y a un modèle qui est intéressant, qui n'est pas américain, qui est chinois, qui est celui de WeChat. Et WeChat, la publicité, c'est plutôt une contrainte, en fait. Et le fondateur de WeChat, Alan Zhang, dit « Moi, mon service, je considère que c'est comme mon meilleur ami. Donc, si je veux parler à mon meilleur ami, je vais pas d'abord attendre qu'il y ait une minute de publicité qui passe avant de commencer à lui parler. J'ai envie de passer beaucoup de temps avec lui. Donc la publicité sur WeChat est absolument minimale.
Limitée, ouais.
Minimale. Mmh. Et le groupe se rémunère essentiellement, c'est un peu plus d'un milliard d'utilisateurs. Le groupe se rémunère sur tous les services. Ils ont un service de paiement hein, qui s'appelle WeChat Pay, je pense, je me souviens plus exactement du nom, et qui lui permet de toucher un pourcentage sur chacune des transactions, commandes de nourriture. Ils ont même des services financiers. Alors ils ont fait aussi beaucoup d'argent sur la vente de jeux vidéo en ligne, mais c'est aussi des services financiers et tout un tas d'autres prestations que payent ses utilisateurs.
Elliot Lepers, est-ce que on a évoqué la question du modèle économique? Un journaliste qui publie une newsletter quotidienne sur Facebook qui s'appelle Casey Newton explique que ces déclarations de Mark Zuckerberg sont essentiellement là pour lui faire gagner du temps pendant qu'il construit et développe de nouvelles sources de revenus pour son entreprise, notamment autour du commerce et de moyens de paiement. Et on sait que Facebook travaillerait sur une blockchain pour sécuriser des paiements, une sorte de sa propre crypto-monnaie.
Oui, je pense que Facebook, ils sont encore en train d'accuser une perte de 120 milliards de capitalisation qui date de l'été 2018. Et donc, effectivement, ils cherchent à savoir comment est-ce qu'ils répondent à des utilisateurs plus jeunes et qui ont de différentes attentes. Et ils évoquent cette question, effectivement, de diversifier les revenus pour ne plus dépendre uniquement des données personnelles, comme d'ailleurs Apple le revendique très, très fièrement en disant nous, notre modèle économique, c'est de vendre des produits, c'est de vendre des produits qui protègent votre vie privée. Et d'ailleurs, les produits aujourd'hui d'Apple sont plus intéressants si vous voulez protéger votre vie privée que des produits édités par Google notamment. Et donc c'est intéressant d'exclure la question du traitement et de la revente de données personnelles de son modèle économique, parce que finalement c'est la seule manière de réussir à être crédible sur cette question. Il y a une étude intéressante qui a été faite en septembre 2018 par le Pew Research Center qui montrait que 74% des utilisateurs US de Facebook ne savaient pas qu'ils étaient fichés, ne savaient pas que des données étaient recueillies tout au long de leur navigation et de leur comportement sur la plateforme pour construire un profil qui permettait de cibler de la publicité.
Ce qui paraît fou parce qu'en plus, on finit quand même assez vite par s'en rendre compte. Mais Dominique Cardon, dans votre partie sur les réseaux sociaux, vous commencez d'ailleurs par établir une forme de typologie avec trois types de réseaux sociaux. Ceux qui sont totalement ouverts, les MySpace, ceux qui sont fermés ou en tout cas qui nécessitent. Et puis tout cela, Facebook et donc WhatsApp, que vous appelez le clair-obscur, c'est ça je crois, c'est cette formule?
Oui, absolument. Facebook, c'est une histoire assez étonnante parce qu'ils ont commencé le service sur l'idée de la petite sociabilité, d'être très proche de la conversation, et qui suscite évidemment des usages massifs. C'est pour ça que Facebook, c'est pas Twitter. Facebook, c'est vraiment diffusé. Twitter, c'est un tout petit cercle. Et parce qu'on est dans un espace en clair-obscur. On se montre, mais pas à tout le monde.
Oui, c'est ça. On se montre,
et
on choisit
puis,
à qui on se montre.
Pour des raisons qui viennent d'être évoquées, c'est-à-dire le modèle économique, ils ont élargi l'algorithme du newsfeed à laisser passer beaucoup d'autres choses qui n'étaient pas le petit cercle des gens avec lesquels j'ai l'habitude de converser. Parce que quand je suis en train de converser avec un tout petit nombre de personnes, on peut mettre toute la publicité qu'on veut sur le côté, ça clique pas. Voilà. Et donc ça. Donc ils ont élargi pour augmenter les revenus, ce qu'ils ont fait avec
succès,
les risques.
Mais...
Et donc c'est
avec les risques que l'on sait, voilà. C'est qu'ils ont à la fois fait transformer l'usage de Facebook. Ça c'est très important. Facebook qui était un espace de conversation et de dialogue était devenu une télévision. On voyait des vidéos défiler. Donc les gens sont partis vers Snapchat, WhatsApp et
comment
et
vous regardez? Est-ce que là, ça peut changer?
Là, on voit bien que la tendance actuelle face à la critique et aux problèmes massifs que ça pose, c'est qu'ils sont en train de revenir au modèle initial, mais ils essaient de revenir au modèle initial tout en maintenant la captation de données personnelles pour leur modèle publicitaire, parce que tant qu'ils n'ont pas changé ce modèle, et c'est très difficile à faire, ils seront toujours dans la même situation.
Gilles Fontaine, un mot peut-être sur la fusion envisagée, qui est l'autre sujet dont on a d'ailleurs déjà parlé dans cette émission. Fusion imaginez des services de messagerie. On rappelle qu'il y a des messages directs sur Instagram, il y a Messenger et bien sûr WhatsApp, les trois appartenant à Facebook.
C'est effectivement le projet. Alors là, il le décrit de façon un peu plus précise, effectivement. C'est dans la logique de ce qu'on a dit depuis le début de cette émission, c'est-à-dire que on passe de la place publique au salon. Et effectivement, WhatsApp, c'est la conversation de 1 à 1, voire le cercle familial ou le petit groupe d'amis. Instagram, c'est aussi quelque chose de plus intime. Messenger, pareil, c'est de la messagerie et beaucoup utilisé aussi dans les entreprises d'ailleurs. Et c'est beaucoup plus riche en termes de données que ce qu'on pouvait trouver sur Facebook, puisqu'on voit vraiment de l'échange intuitu personnel. Ce qui est intéressant aussi de dire, c'est que Facebook s'engage sur le cryptage des communications. Ils ont juste dégradé, hein, depuis qu'ils ont racheté WhatsApp, ils avaient dégradé le cryptage sur WhatsApp, ce qui leur a été beaucoup critiqué. Et aujourd'hui, l'algorithme de Facebook est tellement puissant qu'à la limite, ils connaissent leurs utilisateurs. Et le simple fait de savoir qu'ils se parlent, que c'est Elliot qui parle à Gilles, déjà pour eux, ça vaut énormément. Ils ont même plus besoin de savoir, comme ils savent déjà
ce qu'ils se disent.
Ils nous connaissent déjà. Ils ont même plus besoin de savoir. Le simple fait de savoir qu'on échange à un instant donné, c'est déjà une mine d'or pour eux.
Elliot. Et d'ailleurs, ce projet-là de fusionner toutes ces sous-instances de Facebook a été très fermement condamné en Allemagne avec l'institution antitrust, quoi. En Angleterre, WhatsApp a été obligé de s'engager à ne pas fusionner, et la CNIL a critiqué le partage de données de 10 millions d'utilisateurs en France qui n'avaient pas été traitées dans les formes, quoi. Donc effectivement, il y a beaucoup de contraintes aujourd'hui juridiques qui laissent entendre que cette fusion, elle n'est pas vue d'un bon œil par les institutions, en tout cas en Europe.
Ça ferait 2,2 milliards d'utilisateurs qui seraient tous interconnectés grâce à cette fusion des ouais. messageries. Revenons sur l'un des risques pointés, peut-être à juste cause pour une part, par Mark Zuckerberg. Il dit, si on chiffre de bout en bout, ça va créer des espaces de discussion qui vont permettre de commettre alors des actes criminels, de se vendre de la drogue, etc. Ici notamment également le terrorisme et l'exploitation d'enfants.
Oui, mais il y a déjà des messageries qui existent. D'ailleurs, les fondateurs de WhatsApp...
Comme Signal
Voilà, c'est la messagerie qui a été créée par les fondateurs de WhatsApp qui ont quitté l'entreprise, furieux de voir de ce que Mark Zuckerberg faisait de leur création. C'est-à-dire qu'ils s'étaient engagés justement à ce que le cryptage ne soit pas dégradé, à ce que les données ne soient pas partagées avec celles qu'on recueille sur Facebook. Or, ils l'ont fait. Les engagements de Mark Zuckerberg, on les connaît.
Il les a déjà pris.
Mais c'est dans l'ADN de ce genre de groupe où on est toujours sur le fil et on essaie toujours de pousser un peu plus loin, on teste les régulations, on teste les législations, on teste la capacité des gouvernements et des régulateurs à réagir ou pas. Et en l'occurrence, pour eux, il y a un boulevard qui s'ouvre parce que, effectivement, les amendes qu'on leur a infligées pour ne pas avoir respecté leurs engagements sont absolument ridicules. Enfin, on parle de quelques centaines de milliers d'euros dans le pire des cas.
Les solutions alternatives sont donc Signal, par exemple, ou encore Telegram.
Il serait contesté aussi sur le chiffrement de Telegram.
Pourquoi ?
Globalement, on a assez peu d'éléments sur les technologies qui sont utilisées. Le financement provient quand même beaucoup des autorités russes. Et il y a des liens, effectivement, qui sont assez troubles sur la géopolitique de Telegram. Donc, pour l'instant, c'est plutôt Signal.
Il y a tort aussi.
Il y a tort aussi. Autre solution, les utilisateurs pourraient paramétrer le temps pendant lequel leurs messages sont conservés. Est-ce que c'est une bonne idée selon vous ?
Oui. Ah bah oui, enfin oui. Non mais on en parle depuis toujours, mais là on parle.
Là on retrouve Snapchat pour le coup. Par exemple.
C'est ça. La plupart des utilisateurs aujourd'hui de ce type de service, quand on parle de droit à l'oubli, je pense que c'est effectivement ce qui a pu poser problème à beaucoup d'utilisateurs qui se sont retrouvés parfois dans des situations un peu désagréables. Bon, on parle du candidat à un poste dont on retrouve la vidéo en train de boire des bières un peu trop fréquemment avec ses camarades. Mais c'est vrai que ça devrait être inscrit dans devrait être une règle de base de tous ces services, le fait qu'on puisse effacer les messages au bout d'un moment et définitivement.
Il y a un article très intéressant du journaliste du Monde, Martin Untersinger, qui dit que la note du 6 mars de Zuckerberg montre que Facebook n'a toujours rien compris à la protection des données personnelles, et notamment parce qu'elle est tout le temps proposée par Facebook sous le prisme entre les utilisateurs, c'est-à-dire se cacher des autres utilisateurs, alors que ce qu'on demande aujourd'hui, c'est
se cacher de Facebook.
Ouais. Et donc c'est effectivement que Facebook ne collecte moins de données à notre sujet. Sur les engagements de Zuckerberg, ce qu'il faut quand même noter, c'est que c'est pas la première fois, c'est qu'il y avait déjà eu la promesse.
On peut terminer sur ça d'ailleurs, est-ce qu'on peut le croire comme compte tenu de son CV, si on peut dire, de son passé.
Il y a quand même la promesse au moment de Cambridge Analytica de nous proposer un outil pour supprimer notre historique, pour nous permettre de recréer une virginité de ciblage et donc de ne plus avoir de profil chez Facebook. Bon, bah, on l'attend toujours. Il y a également l'engagement dans le Code of Practice qui a été porté par Mozilla de la part de Facebook de fournir un index ouvert de toutes les publicités politiques. Eh bien, on attend toujours les résultats. Et en attendant, tous les travaux de recherche ont été, leur accès a été bloqué et donc ils ne peuvent plus aujourd'hui étudier les publications sponsorisées sur Facebook. Donc effectivement, il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup d'engagement, mais in fine, rien n'est fait pour nous permettre de reprendre le contrôle de nos données.
Le mot de la fin, Brille, avait mangé le fontaine.
Je pense qu'effectivement, pour reprendre Elizabeth Warren, je pense qu'une des solutions, ce serait effectivement qu'on sépare, en tout cas, pour ce qui concerne
les messageries, Facebook
et ses messageries. Sinon, ce sera très compliqué de les suivre ensuite.
On en reste là pour ce soir. Merci à tous les trois, Gilles Fontaine, Eliott Lepers et à vous, Dominique Cardon, qui êtes restés ce soir. Merci.